FM+.
L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Dupuis, journaliste qui vient de publier un ouvrage « Tout n'est pas blanc et noir en Afrique comme ailleurs ». Alors, Daniel Dupuis n'est pas un inconnu pour nous. Il vient animer le Café Actualité du Centre Documentation Tiers-Monde demain, justement, sur cet ouvrage. Et il était déjà venu. Après avoir publié un livre sur les disparus du Pérou en 2009. Un livre qui avait fait une enquête très très sérieuse sur ces cas de disparition. Et là, dans votre ouvrage, cette fois-ci, Daniel Dupuis, on voit que vous voulez protester contre certains préjugés encore malheureusement trop souvent qui circule encore en France et ailleurs à propos de l'Afrique et des Africains. Et vous avez voulu donner la parole à des Africains qui sont tout à fait impliqués dans la société africaine, soit parce qu'ils sont des paysans, des syndicalistes, des artistes, des femmes qui sont entrepreneurs. Enfin, on trouve évidemment dans cette parole africaine beaucoup d'exemples qui montre que les Africains prennent leur sort en main.
Oui, tout à fait. Bonjour. J'ai voulu donner la parole à la société civile africaine, comme vous l'avez expliqué, parce que ça me paraissait important. Donc, je suis allé sur place et j'ai recueilli plus d'une centaine de témoignages. Bon, ils ne sont pas tous dans ce livre, bien évidemment, mais il y en a une cinquantaine dans le livre. Je suis allé dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Sénégal et au Bénin. Et j'ai cherché en effet à rencontrer, vu que je suis parti un petit peu, enfin c'était une question, on avait discuté un petit peu avant, il y a eu ce fameux discours de Dakar qui m'a plus que
irrité. De Nicolas Sarkozy.
En effet.
En 2007.
En 2007, juillet 2007, vous savez, l'homme africain, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas
entré dans l'histoire.
Pas assez entré dans l'histoire, n'est-ce pas? Jamais il ne s'élance vers l'avenir, jamais il ne sort de la répétition pour s'inventer un destin, etc., etc. Bon, les clichés abondaient. Donc, il m'a paru intéressant d'aller voir sur place et de sortir un peu, parce qu'on a quand même une tendance à présenter de l'Afrique, très souvent en tout cas dans les grands médias, une image assez négative. On nous parle de misère, de maladie, de mort, de massacre, etc. Il ne s'agit pas de dire que ces faits-là ne sont pas, ces drames-là ne sont pas réels. Ils le sont, bien entendu, mais il n'y a pas que ça en Afrique. Et la vie quotidienne des Africains ne se résume pas pour donner un exemple à Ebola et à Boko Haram. Pas plus que la vie quotidienne des Français en 2015 ne se résume à l'attentat de Charlie Hebdo ou au Bataclan.
Oui, alors vous êtes parti en 2010-2011, hein. Je crois que c'est dans ces années-là que vous avez fait vos interviews.
Tout à fait.
Est-ce que vous êtes parti au hasard ou comment avez-vous préparé justement ces rencontres?
Eh bien, je suis parti, celui qui m'a beaucoup aidé au départ, c'est Bruno Jaffré, qui a écrit une biographie de Thomas Sankara.
Oui, que nous connaissons bien, pour le comité Thomas Sankara, il est venu plusieurs fois à Montpellier animer des conférences.
Voilà, alors il se trouve que je l'ai rencontré avant de partir et qu'il m'a donné un certain nombre d'adresses, de numéros de téléphone, qui m'ont beaucoup aidé. C'était principalement, évidemment, au Burkina Faso.
Eh oui.
Voilà.
Et donc, pour les autres pays, comment cela s'est-il passé?
Ça se fait souvent comme ça se fait. Disons, il y a eu une recherche sur Internet d'une part, et puis après, c'est le bouche à oreille, une fois sur place, qui permet d'avoir de nombreux contacts.
Donc, vous en avez eu plus d'une centaine?
Oui,
une cinquantaine
après,
dans le
livre, oui, avec une vingtaine de témoignages principaux.
Alors, on y trouve justement un reflet de toute cette société, puisqu'il y a des hommes, des femmes, des paysans, des artistes, des syndicalistes, des entrepreneurs, et encore, j'en oublie sans doute, des responsables associatifs, bien sûr, et des femmes, il y a pas mal de femmes, des militants altermondialistes.
Oui.
et vous parlez aussi dans votre dernier chapitre des expulsés.
Oui, des expulsés maliens, l'association malienne des expulsés. Okay. Mais bon, j'ai voulu donner, comme je vous dis, la parole à la société civile africaine et présenter justement des témoignages des hommes, des femmes qui sont à la fois ouverts, qui sont lucides et qui nous donnent une autre image de la société civile africaine, beaucoup plus, qui nous présente sous des aspects, ils sont actifs, ils sont ouverts, je l'ai déjà dit, ils sont solidaires, ils sont combatifs. Et il nous présente une autre vision, oui, en effet, de l'Afrique.
Alors, vous rappelez aussi, dans vos têtes de chapitre, tout ce qui a été véhiculé comme pensée sur, justement, l'Africain, toujours passif, qui n'a pas d'histoire, comme l'a dit Sarkozy, mais même dans les grands penseurs qui ont précédé notre siècle, Voltaire, par exemple.
Et oui, en effet. Bah, disons que les préjugés sur l'Afrique nous viennent de loin, c'est clair, et qu'ils ne sont pas l'apanage non plus des hommes de droite ou d'extrême droite, des hommes de gauche, des icônes de la culture française ont dit ou écrit des aberrations. Je ne vais pas tous les citer, mais oui, on peut citer Voltaire qui disait, je cite, « Je vois des hommes qui sont supérieurs à ces nègres, comme ces nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. » On peut citer aussi Victor Hugo, on peut citer Jules Ferry, on peut citer Ernest Renan, Albert Schweitzer, il y en a beaucoup, mais bon...
Et oui, même Albert Schweitzer, qui est le grand nom de l'abolition de l'esclavage.
Oui, qui a été prix Nobel, évidemment, qui a longtemps vécu en Afrique, et qui disait que le primitif ne connaît que des jugements de valeur élémentaires, mais quand il a affaire à un blanc, il sent avec une intuition infaillible si celui-ci est une personnalité morale, pardon. Et alors, il s'incline et reconnaît son maître. C'était dans les années 50.
Et oui, ce n'est pas tellement...
C'est pas bien vieux, et puis je peux... Enfin, on ne va pas jouer au petit jeu des citations, ça pourrait être très long, mais je pourrais citer, outre en 2007, par exemple, un certain biologiste et généticien nord-américain, James Watson, qui lui aussi a été prix Nobel de médecine, et qui disait que les politiques d'aide à l'Afrique noire ne peuvent pas fonctionner parce qu'elles sont basées sur l'idée que les Noirs sont aussi intelligents que les Blancs. Or, toutes les données génétiques prouvent le contraire.
Oui, en effet.
2007, hein, oui. 2007.
Alors, bien sûr, on a parlé aussi récemment encore de ces expositions exotiques qui avaient beaucoup de succès.
Ah oui, les fameuses expositions coloniales avec les zoos humains. Voilà. Oui, c'est exact. C'est exact. Mais bon, si on peut peut-être revenir sur les différents témoignages qui ont été présentés. Je pense que, justement, à travers, par exemple, un personnage comme Yacouba Sawadogo, qui est un paysan burkinabé, qui a 70 ans, et qui a, par son travail, réussi à faire renaître une forêt d'une trentaine d'hectares dans le Sahel, dans la région de... Waïgouya, c'est une région sahélienne. Il a commencé par une technique toute simple, c'est le fameux zaï, qui est une technique ancestrale qui consiste à creuser des petits trous peu profonds à la saison des pluies pour y recueillir les eaux de pluie. Il a amélioré la technique, il a creusé avant la saison des pluies, il y a piégé des matières organiques apportées par le vent et ensuite il y a semé, avant même la saison des pluies aussi, des graines de sorgho et de mil. Et ce qui fait qu'il a eu des résultats qui ont été... Il a pu décupler ses rendements, d'une part. Et d'autre part, il y a des jeunes pousses d'arbres qui sont apparues au milieu des graines de sorgho et de mil, dont il s'est occupé. Et en une quarantaine d'années, il a fait pousser une forêt d'une trentaine d'hectares dans le Sahel. Et ce sont des exemples qui... Évidemment, son exemple a été suivi par les paysans des environs. Il a créé une association, l'association ZAI pour le développement. Il y a une centaine de groupements paysans qui l'ont suivi. Il a,
oui, dans d'autres pays africains
Dans d'autres pays africains, au Burkina même, mais aussi au Mali, au Sénégal, etc. Et c'est important parce que ces techniques toutes simples d'agroforesterie, donc d'intégration des arbres à la production agricole, un universitaire néerlandais, je cite un article du Monde Diplomatique, a constaté à travers des photos satellites que des centaines de milliers d'hectares avaient ainsi été régénérés dans le Sahel par les paysans eux-mêmes, qui emploient des méthodes simples, efficaces, peu coûteuses et qui n'ont pas besoin d'un financement du FMI ni d'aucun brevet exceptionnel.
Et oui, justement, par rapport à ça, il y a toute une réflexion aussi sur les indépendances qui n'en sont pas de réelles, malheureusement. Et une des musiques que vous avez choisies, c'est « Décolonisons », qui est tirée d'un CD qui a été fait par Survie.
Oui, oui, par l'association Survie. L'association Survie. Survie, oui.
Alors nous allons l'écouter.
Il y a toujours eu des résistances en Afrique. Tout au long de la traite, de l'esclavage, de la colonisation, il y en a toujours eu.
Occident, Afrique, de sombres ficelles se tirent en coulisses. Loin de nos médias, il mène l'Afrique au supplice. Son sort se décide surtout au nord et trop ignore que l'indépendance est factice, qu'en secret et en silence agissent ceux qui infligent à l'Afrique tant de sévices. Ceux qui la pillent impunément, ils tissent leur toile la service. Du sang de ses fils, leurs mains rougissent, puissent la vérité éclater aux yeux de tous. Réseau, trafic, criminel, diplomate et complice, puissent l'Afrique se faire taire de justice. Que la vérité la franchise des puissances dominatrices, elle n'effacera pas des cicatrices, mais qu'au moins dans l'appel à transparence.
Je n'aime pas ce peuple qui est mendeur et persifleur. Un peuple adulateur des dirigeants mongolfiers qui bougent au gré du vent des caprices de l'Occident. Haouyen Deme, Kanga Safaga, Akungro Bigolo, Prafine Nunga Okomia Yele, Prafina Teta Gagne, Ni Aute.
Des milliers d'Africains qui jettent à la mer leurs embarcations, misent leur vie, les sont derrière sans hésitation. Beaucoup vont mourir noyés, broyés, pendant que nos députés votent les bienfaits de la colonisation. Afrique à la France tapillée, elle s'est grillée par le soutien des dictateurs en place, et stocke encore quelques billets. Maghreb, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, c'est avec votre sang qu'ils abreuvent les sillons nos livres d'histoire.
La jeunesse africaine en a marre d'apprendre l'histoire occidentale imposée dans ses écoles. La jeunesse africaine en a marre de perdre son monopole sous le contrôle des métropoles, des bases militaires françaises, des coups d'état présidentiels, des mercenaires tombés du ciel.
Voilà, alors avec ce CD des colonisons, on voit évoquer bien sûr la présence française et plusieurs de vos interviewés font part de leur vraiment de leur déception par rapport à la France.
Oui, en effet, puisqu'on parle de musiciens et de rappeurs, j'ai eu l'occasion d'interviewer des rappeurs. En effet, Didier Awadi, qui est un rappeur sénégalais, mais également qui a participé très activement à l'organisation du Forum social mondial à Dakar en 2011. Mais j'ai aussi interviewé Smokey, qui est un rappeur burkinabé, qui commence à être connu, je crois, en France, qui, avec son compère, musicien de reggae, Sam Skaledja, a créé un mouvement politique, le Ballet Citoyen. Ça a été créé en 2013. Et ce mouvement citoyen a été important puisqu'il a été l'un des instigateurs, pas le seul, mais l'un des instigateurs qui ont conduit aux manifestations massives.
Qui ont renvoyé Compaoré.
Oui, chez lui en effet, qui après 27 ans, qui voulait renouveler évidemment, qui cherchait à modifier la constitution pour pouvoir se présenter une nouvelle fois après 27 ans au pouvoir. Compaoré, qui entre parenthèses est considéré comme responsable de la mort de Thomas Sankara. Enfin bon, il est fortement soupçonné.
Oui.
Évidemment,
oui.
On n'a pas la preuve absolue, mais on l'a rarement dans ces cas-là. Bref, donc, les manifestations qui, en octobre 2014, manifestations massives, qui ont conduit donc à la chute de Blaise Compaoré.
Oui, alors ces deux rappeurs,
Il y a un rappeur et un musicien qui ont créé ce mouvement pour le Ballet Citoyen, c'est entre parenthèses pour nettoyer la malgouvernance. Mais ils ont été redoutés. Très efficace, en effet.
Mais l'un d'entre eux, Sam
Skaledja,
oui, est un homme de radio aussi.
Oui, c'est un homme de radio, exact.
Et plusieurs fois dans votre ouvrage, vous mentionnez justement le rôle de la radio.
Bien sûr. Ben, lui travaillait à Ouaga FM, mais suite à son soutien d'ailleurs à différentes manifestations étudiantes, il avait été expulsé de Ouaga FM. Et puis je crois qu'il a pu reprendre une émission sur une autre radio.
Parce que c'est ce qui est beaucoup écouté en Afrique.
Oui, la radio est très importante. Ben, je cite parmi les témoignages celui, non plus d'un Burkinabé, mais d'un Nigérien, Serge Ilpron, qui a créé une radio, Radio Nomade, à Agadez, donc au Niger. C'est une radio d'éducation, comme il l'expliquait, d'information, mais à vocation éducative et politique. Et c'est une radio très intéressante d'ailleurs, puisque je crois que les émissions sont en quatre langues. Il y a le français, mais il y a aussi, je crois, le haoussa, il y a le tamatchek, et peut-être le peul, je ne me souviens plus exactement.
Oui, effectivement.
Voilà. Donc, et lui aussi a créé cette radio. Évidemment, il a eu quelques difficultés parce que c'est extrêmement tendu. Je sais que la radio a été fermée à deux ou trois reprises parce qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins tabous, et notamment la rébellion dans le nord du Niger.
Oui, donc c'est un rôle vraiment politique et social que joue cette radio.
Exactement, exactement.
Alors, dans votre ouvrage aussi, on trouve beaucoup de témoignages de femmes.
Oui, en effet. Ben, les femmes, je peux en citer, enfin, il y en a une que apparemment vous connaissez bien ici, c'est Aminata Diallo, qui est responsable de l'association Maya Bobo,
oui.
Qui lutte en effet contre la déscolarisation massive des adolescentes. Je crois, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'à Bobo même, qui est quand même la deuxième ville industrielle, la deuxième ville du pays, et un centre industriel important au Burkina Faso, je crois que le tiers des adolescentes terminent leur scolarité dans le secondaire, quoi. Donc il y a une déscolarisation massive due à différents facteurs, différentes raisons en effet, dont les naissances précoces et non désirées, donc ce qui l'amène à avoir une action particulièrement efficace, parce que je crois que, enfin, à l'époque, en 2010-2011, quand je l'ai interviewée, elle m'avait dit qu'elle avait pu réussir à rescolariser plus de 150 adolescentes. Elle a créé également une formation pour des jeunes. Et il y avait environ 70 personnes qui suivaient ces formations à l'époque.
Oui, donc tout à fait important. Il y a aussi le cas d'une personne handicapée.
Exactement, Marie-Dominique Toé, une Burkinabé, qui est elle-même handicapée, et qui a créé une association de conditionnement de produits alimentaires. Alors donc, ce sont soit des céréales, soit des fruits, et dans laquelle elle fait travailler, elle a créé un petit atelier, elle a réussi à obtenir des financements, et dans laquelle elle fait travailler de nombreuses personnes handicapées, des femmes handicapées.
Alors, il faut dire qu'en Afrique, souvent, le handicap est vu par les familles comme quelque chose d'exclusif. Enfin,
oui, en effet.
On repousse la personne.
Voilà, handicapée. Très mal acceptée. Elle me disait elle-même qu'au départ, ce n'était pas facile parce que les femmes handicapées ont mauvaise réputation. Elle avait été frappée, elle avait vécu à la campagne. Et puis, quand elle est arrivée à Ouagadougou, la capitale de Burkina, elle avait été frappée de voir autant de femmes handicapées qui mendiait dans la rue. C'est pour ça qu'elle a voulu essayer de créer cette association, cet atelier, pour précisément donner du travail à ces femmes, qu'elles puissent retrouver, comme elle disait, un minimum de dignité, c'est exact. Et il a fallu lutter contre beaucoup de préjugés, en effet. Mais elles montraient des photos, par exemple, comment elles travaillaient dans leur atelier, en blouse blanche, avec des gants, etc., pour montrer que l'hygiène était parfaite. Elle a dit qu'elles ont dû travailler beaucoup et être beaucoup plus exigeantes envers elles-mêmes au niveau de la qualité de leurs produits, mais elles se sont imposées peu à peu dans le milieu. Mais par rapport à sa propre histoire, elle me disait qu'en effet, femme, elle disait, si je la cite de mémoire, qu'en Afrique, être une femme, c'est un handicap. Donc, être femme handicapée, c'est un double handicap.
Oui.
Alors, il y a d'autres. Oui, pardon.
Vous parlez d'autres écologistes, par exemple.
Oui, ben je parle entre autres de Haïdar El Ali, qui est un Sénégalais, qui est un plongeur professionnel, qui est à la tête de l'Océanium, qui est un centre de plongée sous-marine, qui est situé sur le boulevard de la Corniche à Dakar, et qui s'est investi dans le reboisement de la mangrove. Alors, en 2006, il a commencé en 2006 à Tobor, c'est un petit village de Casamance. Et il a réussi à mobiliser 300 personnes, 300 jeunes. Ils ont planté 60 000 palétuviers. L'année suivante, il a mobilisé une dizaine de villages. Ils ont planté 500 000 palétuviers. Et en 2010, il avait réussi à mobiliser plus de 500 villages, 524, je ne me souviens plus du chiffre exact. Et ils ont réussi à planter plus de 110 000 personnes. Et ils ont réussi à planter plus de 62 millions de palétuviers. Alors, il faut savoir que les mangroves africaines représentent 15% des mangroves mondiales. Quand une vingtaine d'années, je crois de 90 à 2010, on a perdu environ 10% des mangroves africaines. Et c'est pourtant, elles ont un rôle important, non seulement pour la reproduction du poisson, pour limiter l'érosion évidemment. Elles fournissent du bois, mais aussi et surtout, par rapport pour les paysans, c'est qu'elles évitent la salinisation des sols. Or, en reboisant la mangrove, Il racontait par exemple qu'à Tobor, en quelques années, les paysans ont pu récupérer 30% des champs de riz perdus. Et comme il expliquait, au Sénégal, la protection de l'environnement, ce n'est pas que de l'écologie, c'est d'abord de la survie.
Ah oui, donc très important. Alors, il est question pas mal, évidemment, de responsables associatifs aussi, et qui portent un regard critique sur les ONG, souvent.
Oui, souvent. Ben, je pense à Alexandre Babila, qui est un éducateur spécialisé, qui a vécu d'ailleurs une quinzaine d'années en France, qui s'est formé en France, entre autres, et qui a fait le choix de revenir au Burkina Faso après, et qui s'est d'abord occupé d'un centre de jeunes délinquants, à l'occasion duquel, d'ailleurs, il a rencontré Thomas Sankara à l'époque, et qui, une fois à la retraite, a créé une association de formation pour les jeunes filles déscolarisées. Et en effet, il me disait, il se montrait extrêmement critique, mais ce n'était pas les seuls. Beaucoup se montrent extrêmement critiques. Bon, il ne faut pas généraliser, c'est très difficile, parce qu'il n'y a aucun rapport entre, je dirais, la petite association lotoise, par exemple, ou aveyronnaise, qui va consacrer tout son temps et toute son énergie à aider concrètement à construire une école ou un dispensaire, je voudrais dire, au Burkina Faso, et la grande ONG qui va employer des centaines de personnes et des centaines de personnes et qui envoie des expatriés sur place qui vivent dans des conditions un peu particulières quand même. Donc il se montre, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vrai que beaucoup de Burkinabés se montraient extrêmement critiques en disant oui. qu'il faudrait mieux investir davantage directement avec les personnes sur place et leur faire un peu plus confiance.
Voilà, la confiance justement vis-à-vis des Africains. La considération.
Oui, parce qu'une bonne partie de l'argent qui est envoyé là-bas, d'une manière ou d'une autre, vient ici, au point de départ. Donc il faut voir, dans les associations, il y a vraiment tout. On ne peut pas généraliser, mais c'est vrai que beaucoup se montrent critiques. Sans compter que le côté de... Beaucoup me disent, mais le côté assistance n'est pas forcément une bonne chose non plus. Il faut que ça soit de la solidarité, non pas de l'assistance.
Voilà, oui,
il ne s'agit pas d'avoir compassion, c'est bien,
mais
ce n'est pas
suffisant. C'est ce que les associations qui sont à la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale font. Elles font des partenariats.
Voilà, solidarité et non charité.
Voilà.
Ce n'est pas du tout la même conception, ce n'est pas les mêmes rapports, ce n'est pas le même regard non plus qu'on porte. Il y a un traitement d'égal à égal, c'est aussi ce qui est demandé sur place. Et à juste titre. Et alors, pour ça, il faut sortir des idées reçues, précisément, et remettre en cause un certain nombre de préjugés.
Oui, alors dans votre livre, ce qui est intéressant aussi, ce sont les notes. Parce que vous faites référence à des textes qui sont écrits par des Africains, notamment tout ce qui a été des réponses au discours de Nicolas Sarkozy de 2007.
Tout à fait exact, ouais.
Mais pas seulement. Vous citez aussi, bien sûr, toutes les statistiques qui ont été établies, notamment par l'UNICEF.
Exact, oui.
Et puis, pour des jeunes lecteurs, ils y trouvent, je pense, des références qui leur permettent de resituer, justement, ces relations de la France avec l'Afrique.
Oui, ces références me paraissaient indispensables. J'ai fait une recherche après les interviews et retours. Avant et surtout à mon retour, j'ai fait toute une recherche documentaire. J'ai lu 25-30 livres sur le sujet. C'était très intéressant et il me paraissait indispensable de resituer tout cela dans un contexte précis, en effet.
Alors, nous allons écouter maintenant, bien justement, un de ces musiciens, Didier Awadi,
exact.
Que vous avez interviewé
exact.
Et qui figure dans ce disque « Décolonisons ».
Chaque fois que le peuple va aux urnes, man, c'est parce qu'il espère un vrai changement. Malheureusement, j'entends encore toujours le même cri. De toute façon c'est pire qu'avant, les mêmes magouilles, les mêmes deals. De toute façon c'est pire qu'avant, les mêmes qui pillent et tournent et volent. De toute façon c'est pire qu'avant, ceux qui parlent de changement te perdent le vice, c'est devenu pire qu'avant. C'est pas de bouffe, pas de job, pas de thune, pas de job. Les promesses qu'on nous a faites s'épanouissent comme une bad joke. Les gens autour de moi quand ils bouffent c'est one time. Demande à qui de droit du pain, pour lui c'est no time. Et je vois tous les jours des riches qui ne pensent qu'à nous dépouiller, distraire le peuple et les dévier. Tous les crimes vont les maquiller. Les prix augmentent tous les jours, oui tout est devenu cher. L'eau, le gaz et l'eau courant, oui tout est devenu cher. Le prix du pain, le prix du sucre, le prix du riz, le prix du lait, le prix du bus, le prix des soins à l'hôpital, c'est devenu cher. Mais on ne veut pas de miracle, mais simplement des gestes forts, des actes forts, qui parlent aux gens des signes forts. J'entends encore le même cri, je viens de parler même.
Voilà donc la parole de ce rappeur. Et je rappelle que Didier
Awadhi,
voilà, était dans ce disque. Alors, Daniel Dupuis, vous nous faites le plaisir de venir animer le Café Actualité du Centre Documentation Tiers-Monde demain, mardi, de 12 à 14 heures, à l'espace Martin Luther King. Cela va s'intituler « Un autre regard sur l'Afrique ». Et vous allez nous dire, évidemment, comment vous avez réalisé ces interviews et répondre aux questions du public. Alors, je rappelle donc que l'entrée est libre et que vous pouvez venir de 12 à 14 heures rencontrer Daniel Dupuis et l'ouvrage qu'il a publié « Tout n'est pas blanc et noir en Afrique comme ailleurs » est disponible évidemment au Centre Documentation Tiers-Monde. C'est un ouvrage qui a paru dans la collection « Africa is Beautiful » dans les éditions Alphabar. Ce même mardi 12 avril à 20h à la salle Pétrarque, place Pétrarque, aura lieu l'accueil du Tour de France en tuk-tuk d'enfants du Mékong, qui est parti de Paris le 14 mars et qui doit finir le 24 mai, 4000 km en 20 étapes, 300 enfants à parrainer. Donc ce débat du mardi 12 avril à la salle Pétrarque aura lieu en présence de la direction du siège social de l'association. La soirée sur le thème du parrainage avec témoignages, vidéoconférences et temps d'échange suivi d'un pot. Vous pouvez vous renseigner au 06 60 12 58 02. Dimanche 17 avril à 17h30 au théâtre La Chocolaterie 203 rue de l'Industrie à Montpellier. Vous en faites pas, elle va revenir. C'est une pièce de Kevin Bourges. Les bénéfices seront reversés à Pour un sourire d'enfant. Les places sont limitées. Vous pouvez réserver au 06 60 77 59 67. L'entrée est de 15 euros. Enfin, je rappelle que le mardi 12 avril à 20h à Utopia, le collectif Oxygène présente le film La Terre en morceaux d'Ariane Doublé. Le collectif Oxygène qui se défend contre un projet d'urbanisation dans la zone, donc un grand projet qui s'appelle Oxylane. La braderie d'espoir pour un enfant, la prochaine, aura lieu à Castries, jeudi 14 au dimanche 17 avril. Vous pouvez vous renseigner sur Facebook, http://www.facebook.com/espoir-enfant-héros ou bien prendre contact avec l'association contact@espoir-enfant34.fr. Enfin, j'annonce déjà que du 8 au 9 juillet à Besançon aura lieu l'université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale. Cette année, tous les mouvements de la solidarité internationale s'unissent avec ATTAC pour traiter des utopies aux alternatives. Agissons ensemble. Donc, vous pourrez déjà vous renseigner sur cette université d'été sur le site www.université-si.org. Merci à Daniel Dupuis.
Je vous remercie.
Et à bientôt, chers auditeurs.